Est-ce que payer l'agriculteur qui parvient à séquestrer du CO2 dans le sol, ça pourrait être une solution ?
Alors, le CO2 séquestré dans le sol, c'est un service rendu par l'agriculture à la société. Donc, on peut imaginer, tout comme on taxe l'émission, subventionner la séquestration. Ce serait très raisonnable.
Nos sols sont-ils en péril ?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Les plantes, c'est bien connu, consomment du gaz carbonique, du CO2, un des plus importants gaz à effet de serre, et le transforment, ce gaz carbonique, en partie en matière organique. Cette matière organique, les feuilles des arbres par exemple, lorsqu'elles retournent à la terre, sous la forme de feuilles mortes, est consommée, dégradée par les vers de terre et les micro-organismes. Et le CO2 qui s'y trouve encore est intégré au sol, stocké dans l'humus pour longtemps. Lors de la COP21 en 2015, le GIEC a proposé de limiter le réchauffement climatique en utilisant le sol pour capturer le CO2. Un projet gagnant-gagnant. Les sols gagnent en fertilité et le gaz carbonique présent dans l'atmosphère diminue. Comment faire pour favoriser la captation de CO2 dans les sols ? Rendez-vous aujourd'hui avec Pascal Boivin, pédologue, autrement dit spécialiste des sols. Il va nous emmener chez un agriculteur genevois, Yvon Cholet, qui pratique l'agriculture de conservation, une agriculture qui prend soin des sols. Voici Capturer le CO2, c'est un reportage de Catherine Erard, réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Voilà,
c'est la bonne.
Vous voulez mettre quelque chose dans le coffre ?
Ouais, je crois que je vais mettre mes bottes.
Je vais refermer.
Alors, on a trouvé la voiture Mobility ici, sous la gare de Cornavin.
Pour aller chez Yvon, que je prenne le poussin. D'habitude, j'y vais depuis Lullier. Yvon Cholet. Ok.
Où est-ce qu'on va là, Pascal Boivin ?
Donc là, on repart sur Meignet, chez Yvon Cholet. Donc on est en rive gauche du lac, tout près de la frontière française en fait. Petite enclave charmante. Et voilà, chez un agriculteur qui pratique l'agriculture de conservation et qui est assez intéressant sur les résultats qu'il a sur le sol et sur la vision qu'il en a.
Depuis quand est-ce qu'on parle de séquestrer du CO2 dans le sol ?
Alors, c'est monté en puissance en même temps que la question du changement climatique, mais moment clé, ça a été en 2015, la COP21, où cette COP21 envisageait évidemment d'essayer de rester sous des hausses de température qui seraient viables, 1,5 à 2 degrés, et pour ça, il y avait soit réduire les émissions, et ou récupérer du CO2 qui est dans l'atmosphère et le reséquestrer quelque part. Il y avait 7 méthodes proposées par la COP21 à l'époque, dont ce qu'on a appelé le 4 pour 1000, l'initiative 4 pour 1000, qui était un simple calcul arithmétique disant bah, si on augmente de 4 pour 1000 chaque année la teneur en matière organique des sols, fois 1,004 chaque année, bah, cela compense peu ou prou les émissions. Donc c'est un chiffre assez spectaculaire. Ce n'est pas une question d'agronomie, de pédologie, c'est un bête calcul de bilan. Alors, ça s'appuie évidemment sur le fait qu'on a perdu énormément de matière organique dans les sols et que ce stock est très élevé comparativement au stock de CO2 de l'atmosphère. Oui, on veut puiser le CO2 dans l'atmosphère et le puits est opéré par la plante. Donc, par photosynthèse, elle récupère le CO2 dans l'atmosphère et fait sa croissance, sa biomasse. Et une partie, évidemment, est exportée, ben, c'est la production agricole. Une partie peut rester à l'état de résidu. D'abord, tout ce qui est racine dans le sol, puis tous les résidus en surface. Et ça va devenir ce qu'on appelle couramment de l'humus, la matière organique des sols. Et donc, une grande fraction de ce qui a été photosynthétisé, donc soustrait à l'atmosphère, une grande fraction peut se retrouver séquestrée sous forme d'humus dans les sols. Et l'humus, ben, l'âge moyen, c'est de l'ordre de 3000 ans. Donc on peut effectivement stocker durablement. Voilà, voilà.
Nous voilà arrivés.
On time, on est bon. Arrivé.
Alors Alors Yvan Chollet, on est là sur un de vos champs. Il y a un peu de vent, je vais essayer de me déplacer. Bon, il n'y a pas de pluie, ça va.
Ouais.
Vous avez la bêche?
Oui.
Alors, il paraît que vous avez passablement d'humus. Vous arrivez à regagner de l'humus, ce qui est assez compliqué. Comment vous faites?
Ben en fait, non, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de garder un maximum de matière organique en surface du sol. Et ensuite, les vers de terre et toute la vie du sol va s'occuper de manger cette matière organique, de manger tous ces éléments. Il va les fixer dans le sol en humus.
Pascal Boivin, vous avez pris un peu de terre. Il y a déjà un vers de terre. Vous avez creusé. Alors, un deuxième vers de terre.
Un troisième, etc. Vous voyez, ça grouille. Et surtout, vous avez une structure qui est très aérée. Regardez, je l'ouvre très facilement. C'est agrégé en petite forme arrondie. Le sol est très aéré. Il a bien drainé ce qu'il a reçu hier. Donc il est
Qu'il a beaucoup plu hier. Hein.
Il est juste frais au toucher.
Il y a beaucoup de racines, hein, on voit de...
C'est les racines vont partout, c'est-à-dire qu'elles accèdent absolument à tout le garde-manger, dans lequel elles trouvent à chaque fois de l'air et de l'eau, et dans lequel la biologie travaille en permanence à reconstituer la structure grâce à ses apports de matière organique et à ses bonnes conditions.
Yvan Chollet, on dit que vous êtes en agriculture de conservation. Ça veut dire que vous, ce sol-là, vous ne le labourez plus?
Plus du tout, non. Non. Justement, pour éviter de casser cette structure qui se met en place naturellement, eh ben, on ne travaille plus du tout le sol. On ne fait plus que de passer avec notre semoir, soit pour implanter des couvertures de sol qu'on a mis en place avant la culture, ou bien après directement dans ce couvert pour mettre en place la culture avec notre semoir.
Ça fait combien de temps que vous êtes en agriculture de conservation?
Depuis 2010, en agriculture de conservation. Ouais.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous en termes de pratique comme agriculteur, en termes de rendement aussi?
Alors, dans un premier temps, ça n'a pas été facile parce qu'on était dans les tout premiers à faire ça sur le canton. Donc, on a eu pas mal d'échecs au début, il faut dire. Mais aujourd'hui, ça fonctionne bien, voire très bien. Et au niveau économique, c'est très intéressant.
Vous avez l'impression, vous voyez que vos sols produisent mieux?
Ah oui, il n'y a pas photo. Puis au niveau de la vie du sol, avant, il fallait retourner 3-4 mottes pour trouver un ver de terre. Aujourd'hui, ben, on l'a vu tout à l'heure, dans une bêche, on n'a pas compté le nombre de vers de terre qu'il y avait, mais je pense qu'il y en avait peut-être pas bien loin de 20. Quoi. Et puis sans compter tout le reste, il n'y a pas que des vers de terre, il y a plein de micro-organismes qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais ils sont là, ils sont présents, ça se sent.
Il y a beaucoup plus ces derniers jours. Là, on marche, c'est pas du tout humide, hein. On s'enfonce pas, en tout cas.
Non, exactement, ça enfonce pas, ça colle pas au pied. On sent que notre sol porte. Ouais.
On est venu vous voir ici parce qu'on s'intéresse à la question de la séquestration du CO2 dans le sol. Vous vous êtes mis en agriculture de conservation, Yvan Chollet, pas pour séquestrer le CO2, pour améliorer votre sol. Finalement, c'est un bénéfice collatéral, un peu.
C'est exactement ça, ouais. Dans un premier temps, on n'y pensait absolument pas. Puis maintenant, la problématique est à l'ordre du jour. Donc oui, on commence à se rendre compte qu'en fait, nos pratiques stockent du carbone dans le sol, ouais.
Pascal Boivin, si on s'intéresse au carbone qui est stocké dans le sol, est-ce qu'un sol qui est labouré, à l'inverse, il va émettre du carbone?
Alors, impossible de répondre comme ça, parce que ce serait manichéen, il y a des gens qui labourent et qui stockent. Mais en majorité, oui, on émet. C'est-à-dire, en moyenne, dans nos sols, en Suisse comme en Europe, on émet. Et on a perdu 60% de la matière organique des sols depuis qu'on les a mis en culture, principalement dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Vous gagnez en matière organique ou c'est très compliqué, très long?
C'est long, ça c'est sûr. C'est pas compliqué. Une fois qu'on laisse nos déchets organiques en surface, ça se fait tout seul, mais c'est long. On a mis plusieurs années pour manger cette matière organique qu'on avait dans nos sols, donc il faudra aussi plusieurs années pour recréer de la matière organique.
Là, vous en gagnez quand même un petit peu ou...
Ouais, j'estime à 0,1% par année du taux de matière organique.
Son taux d'évolution, si on le compare à l'initiative 4 pour 1000 qui demande de faire 1,004 comme facteur de multiplication chaque année, lui il serait à 1,03, 30 pour 1000 et non pas 4 pour 1000. Voilà. Et il y en a un certain nombre de gens sur le canton qui sont dans des taux comme ça d'évolution, oui.
Et il y en a d'autres où c'est l'inverse?
Il y a les moins 30 pour 1000.
Ça veut dire qu'eux émettent du CO2?
Oui, en moyenne on émet sur le canton. On est tout près de zéro, mais en moyenne on émet. Et on a beaucoup émis depuis 30 ans, 40 ans.
Vous vouliez me montrer un champ bio et puis le voisin, ouais, voilà, on avance un peu. Alors là, on est sur un autre champ. quand on marche dessus, j'ai l'impression qu'il est plus
mou,
non ouais.
Alors mou en surface, ouais, mais dur dessous normalement.
Alors on bêche.
Déjà je ne rentre pas. Ça c'est la première chose. Là.
Donc la bêche elle a de la peine à pénétrer dans le sol. On sort une motte de terre. Pascal Boivin, qu'est-ce qu'on voit par rapport à tout à l'heure?
Alors là on est en sol très humide donc il se défait encore. Mais on est assez en système monobloc, vous voyez ici.
Ça fait un peu très, très tassé,
si
un peu.
Regardez
hein.
les racines, vous en voyez beaucoup moins. Vous voyez qu'elles contournent les blocs. Hein, et vous avez des faces ensuite qui sont totalement vides de porosité. Voyez. Donc ça, c'est un système dans lequel l'air et l'eau se distribuent beaucoup moins bien, dans lequel la biologie, à commencer par les racines des plantes, vont beaucoup moins bien rentrer. Vous voyez les blocs comme ça. Ce sont des volumes qui ne sont plus actifs, qui sont morts. Vous voyez, ici, très net. Et d'ailleurs, regardez, les faces sont humides et à l'intérieur, l'eau n'est pas là.
Oui, mais là, ça pousse quand même, on voit.
Alors, ça pousse quand même, alors, j'en sais rien. On voit des plantes, oui, c'est, j'imagine que ça fonctionne. Mais enfin, si vous voulez, depuis l'avènement de cette agriculture post-deuxième guerre mondiale, on a travaillé contre le sol. D'abord, on est parti de sols qui étaient plus riches en matière organique, donc on a utilisé ce capital. Ce qui fait qu'on est un petit peu le roi du pétrole quand on l'entame. D'autre part, on a les apports mécaniques, fertilisants, pesticides pour compenser. Donc on est contre le sol physiquement et on est hors sol chimiquement. Voilà.
Et puis on voit d'ailleurs, il n'y a plus aucun résidu en surface, comme dans la parcelle à côté.
Et ça colle.
Et ça colle au pied, ouais. Et du coup, la vie du sol est en contact direct avec les éléments extérieurs. Les vers de terre n'ont plus rien à manger, plus rien à stocker dans le sol. Parce qu'à partir du moment où la matière organique est enterrée dans le sol, le ver de terre ne sait plus quoi en faire.
Alors, c'est une logique qui a été payante, c'est-à-dire de remplacer le service que fournit le sol pour la production végétale par, finalement, des intrants.
C'est les engrais, etc.
Les apports mécaniques, fertilisants, produits chimiques, etc. Aujourd'hui, on revient là-dessus parce qu'on est bloqué. On est bloqué par la dégradation du sol, on est bloqué par le coût des intrants, on est bloqué par le bilan CO2, on est bloqué par la chute des rendements. Et donc, beaucoup d'agriculteurs reviennent là-dessus aussi pour des raisons personnelles, des raisons éthiques, des raisons de plaisir au travail. Et ça revient à, finalement, utiliser les services du sol qui est capable de fournir ces différents services à la plante et d'assurer la culture.
Yvon Cholet, depuis que vous pratiquez l'agriculture de conservation, qu'est-ce qui a changé pour vous?
Ah ben on voit plus notre sol de la même manière. Ouais, ça, pour moi, ça a vraiment redonné goût à mon métier. Avant, ben voilà, c'était un peu la routine, charrue, herse rotative, semoir et batteuse. Puis maintenant, ben on va regarder nos sols en. On l'aime notre sol maintenant.
Vous avez peut-être plus de temps libre aussi, puisque finalement vous n'êtes pas obligé de le labourer, vous passez moins dessus.
Ouais, du coup on part en vacances.
Non mais sérieusement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai plus de temps libre et du coup moi je fais de la prestation pour des tiers dans les travaux agricoles. Ouais. Non, je passe beaucoup moins d'heures et beaucoup moins de diesel sur mon exploitation qu'avant. Ouais. Beaucoup plus d'heures de tours de champs, quasiment toutes les semaines je traverse mes champs de haut en bas pour regarder comment ça se passe, regarder l'état de vie, regarder à quel moment les limaces ont commencé à sortir, les œufs de limaces, toutes ces choses-là, ouais. Les vers de terre, à quel moment ils travaillent, à quel moment ils travaillent pas, et c'est des choses qu'avant on regardait absolument pas, quoi. Ou en tout cas je regardais absolument pas, ouais.
Est-ce qu'on peut se déplacer parce qu'il y a d'autres champs qui sont peut-être cultivés un peu autrement?
C'est moche là aussi.
Aïe, 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 aïe. Ça c'est un champ aussi qui a retourné, là, voilà. Celui-là, vous faites aïe aïe aïe.
Ben oui, parce que la structure, on voit bien qu'elle est complètement effondrée. Voilà, il n'y a pas de matière organique là-dedans.
On voit, hein, à l'œil nu, on voit des zones qui sont complètement grises dans le champ et d'autres zones qui sont brunes. Ben, ça, c'est la différence de matière organique qu'il y a dans nos terres, en gros. On voit que les zones grises, ben, il n'y a plus que du sable, des cailloux. C'est plus qu'un support, le champ. Il n'y a quasiment pas de vide dedans.
Alors, on est arrivé là sur un champ, vous allez me dire ce que c'est. On voit, en tout cas, il y a de l'eau, il y a des petites mares d'eau, pas très grandes, mais enfin, il y en a quand même. C'est quoi ça comme type de champ? Il reste aussi des restes de culture, hein, a priori.
Oui.
Pascal Boivin.
Disons que là, c'est un sol de nouveau, comme ce qu'on a déjà décrit, qui a perdu sa matière organique, qui n'a pas de stabilité. On a vu qu'il y avait de l'eau qui stagnait dès la surface du sol, le moindre petit trou est rempli d'eau. Ça veut dire que l'eau ne s'infiltre pas et n'est pas absorbée dans les agrégats.
Alors, ce champ ici, c'est un champ qui est cultivé en bio, c'est juste ?
Oui, c'est juste.
Alors, c'est assez fou parce qu'on a l'idée, un champ bio, ça devrait bien marcher. Ici, il n'y a aucun glyphosate qui est utilisé.
Exactement,
on est d'accord.
Pas de glyphosate.
Et pourtant, la structure du sol, on voit, c'est pas top.
Voilà, il n'y a pas de chimie, mais par contre, il y a du travail du sol. Et le résultat, on voit, c'est moins bien. En tout cas, pour la vie du sol, c'est moins bien.
Vous avez vu ce comportement très souple, comme une pâte, un peu une pâte, pâte molle. Voilà. Et après, ça sort en gros paquet, vous voyez, avec pas tellement de biologie dedans, etc. Effectivement, c'est un des problèmes qu'on rencontre en bio.
Finalement, il n'y a pas, en tout cas, sur ce sol-là, en tout cas, il n'y a pas tellement de différence par rapport à l'autre sol qui était en conventionnel, quoi.
Non, c'est les mêmes sols.
Même cause, mêmes effets. Le problème, c'est effectivement, en bio, le recours au labour par peur des adventices, peur légitime.
Les adventices, c'est les mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes, voilà. Qui fait que, très souvent, on constate un état du sol en bio qui n'est pas idéal, voire franchement mauvais, comme ici.
Et au niveau séquestration du CO2, au niveau fabrication d'humus, là aussi, ce n'est pas top.
Ça dépend de nouveau des exploitations
sur
bio.
Sur ce champ,
certainement pas. Lorsque les gens ont beaucoup d'élevage et peuvent rapporter beaucoup de fumier et qu'ils labourent, on a parfois de très bons résultats tout de même.
Ici, c'est une parcelle où ils amènent du fumier.
Ouais, et ben voilà.
Mais on voit pas tellement de résultats, quoi.
Non. Et je pense que c'est plutôt un bio qui fait du bon boulot.
On peut être bio et vilipender l'agriculture de conservation à cause du glyphosate et vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est la convergence entre les deux. Effectivement, aujourd'hui, on a des très très beaux résultats sur la biologie du sol en agriculture de conservation et ce sont des gens qui vont utiliser des pesticides par ailleurs. Le cahier des charges agriculture de conservation ne prend pas en compte la réduction des pesticides, même si les gens le font. Je connais des agriculteurs qui labourent, en bio ou pas en bio, etc., qui ont des sols en bon état. On peut le faire, c'est pas si simple. Il y a des gens en agriculture de conservation qui réduisent énormément les apports de glyphosate. On peut le faire, il faut l'inventer. Mais dans tous les cas, lorsqu'on en arrive là, c'est qu'on a observé son sol et qu'on a pris les décisions, saison après saison, culture après culture, pour aller dans la bonne direction. Et ça, très peu de gens le font, très peu de gens savent le faire.
Si on fait toutes les analyses, notamment agricoles, donc pour les prestations écologiques...
Salut Sylvain.
Salut.
Bonjour.
Je vais vous présenter Catherine Hira.
Donc Aline Chambetta, Sylvain Michel.
Mais
on est ici devant le laboratoire des sols. On va entrer, on va essayer de tester des prélèvements de terre qui ont été faits chez Yvan Cholet pour voir le taux de CO2 qu'ils ont. Alors, votre nom, c'est comment ?
Sylvain Michel.
Alors vous êtes ici, vous travaillez dans ce laboratoire des sols. Et là, donc, on va prendre un petit prélèvement qui a été fait sur les terres d'Yvan Cholet pour voir le taux de CO2 dans ce sol. Donc là, vous êtes en train de peser un petit peu d'échantillons de terre. On a le petit bocal, là, l'Erlenmeyer, avec un petit peu de terre dedans. Qu'est-ce que vous allez faire là ?
Alors on va... Donc sous chapelle, parce que c'est des produits un peu dangereux. Alors on va tout d'abord ajouter le bichromate de potassium. C'est donc ce réactif orange que vous voyez ici. C'est une belle couleur. Ça fait un peu de fumée.
Là, ça fait de la fumée. Vous avez rajouté quoi ?
Donc là, c'est l'acide sulfurique concentré. Donc ça, on laisse réagir 30 minutes.
Et puis direction, les tubes d'essai.
Et après, filtre. Et après, tube d'essai au spectromètre. L'autosampler, il aspire le liquide ici dans l'éprouvette. Et elle va passer ici dans le spectromètre UV. Et donc, c'est là qu'il va mesurer, en fait... si notre échantillon est plus ou moins vert. Et donc, par colorimétrie, on va déterminer exactement le taux de matière organique. là, on voit par exemple le premier échantillon, il a 1,9 de pourcentage de matière organique. Il y a une relation entre matière organique et carbone organique. Donc ça, c'est une relation empirique et il y a juste une conversion à faire. Et donc ça nous donne déjà une première indication. Et par exemple, le deuxième échantillon, là, il est à 4,5 de matière organique.
Il faudrait avoir combien de matière organique? Ça serait quoi?
C'est 4, c'est le minimum, quelque chose comme ça, ouais.
Bon. Nous, on fait l'analyse et après, on donne aux agronomes qui vont ensuite interpréter les résultats et
pour dire la qualité du sol entre le taux d'argile et le taux de matière organique. Donc ça, il faut avoir un bon ratio pour qualifier le sol de bonne qualité.
Pascal Bovin, on est ici dans votre bureau, on est à Lullier, dans les locaux de l'EPIA, là où on forme les futurs agronomes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui le taux de matière organique qu'il faudrait avoir dans les sols? Est-ce qu'on a des normes de référence?
Oui, elles sont toutes récentes, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas et on les a établies, en fait, même c'est notre équipe directement, là, en l'occurrence. Ça se raisonne par rapport à la teneur en argile. Alors c'est des choses qu'on savait un peu dans le passé, mais on a vraiment calé ces normes en termes de valeur. Il faut 17% de la teneur en argile en matière organique. Donc si vous avez 10% d'argile, il faut 1,7% de matière organique dans un sol pour arriver à une qualité, enfin une vulnérabilité acceptable, c'est-à-dire une qualité correcte, quoi. Et on est très très loin de ça, on est à 10-12 en Suisse. Et dans le reste de l'Europe, on est en train de faire la synthèse, on est aussi à 8-10.
Ce qu'on a vu dans les champs d'Yvan Cholet, la quantité de CO2 qu'il arrive à séquestrer, est-ce que si beaucoup plus d'agriculteurs faisaient ça, quelles conséquences est-ce que ça aurait? Quel potentiel ça aurait?
Ben, pour prendre l'exemple genevois, Yvan Cholet il fait partie de ceux qui sont à peu près à 30 pour 1000, hein, ce fameux facteur de séquestration. En faisant du 15 pour 1000, on arriverait à faire 150 000 tonnes à peu près d'ici 2030 de CO2 séquestré. Le plan climat, c'est 1 700 000 tonnes. On est pas loin des 10% du plan climat. Pour un petit canton agricole, c'est énorme. Dès qu'on passe sur des cantons plus grands, ben, évidemment, ça devient un poids lourd.
Est-ce que payer l'agriculteur qui parvient à séquestrer du CO2 dans le sol, ça pourrait être une solution?
Alors, le CO2 séquestré dans le sol, c'est un service rendu par l'agriculture à la société. Donc, on peut imaginer, tout comme on taxe l'émission, subventionner la séquestration. Ce serait très raisonnable. Ce serait un pas dans la bonne direction, sachant que pour aller vers une direction plus stable encore et plus qualitative, il faudrait effectivement passer au résultat globalement. Je m'explique, si quelqu'un a séquestré beaucoup de CO2 et qu'il a une très forte teneur en matière organique, il ne va peut-être plus augmenter cette teneur, donc il ne va plus séquestrer, mais il est très vertueux, il est tout en haut et il doit être rémunéré pour cette qualité-là. Donc, transitoirement, une subvention à la séquestration, ce serait très bon pour la société, très bon pour les agriculteurs. Transitoirement. Mais à terme, on sait qu'il faut révolutionner aussi cette politique agricole en essayant de travailler sur la qualité directement en l'évaluant au champ et en laissant libre le chemin pour aller à cette qualité. Et ça, ce sont probablement des formules au résultat qu'on aimerait pouvoir expérimenter grandeur nature, oui.
Fin de vacarme pour aujourd'hui. Réagissez à ce reportage de Catherine Erard en appelant dès maintenant le 058 236 236 0. Vous sentez-vous concerné par les sols? Que faites-vous pour eux dans vos grandes cultures ou votre petit jardin? Votre avis et vos expériences nous intéressent, alors appelez-nous au 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Catherine Erard, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Et dimanche, dans les Échos de Vacarme, nous recevrons Elena Havlicek. Elle est collaboratrice scientifique section sol de l'Office fédéral de l'environnement et Jacques Bourgeois, directeur de l'Union suisse des paysans et conseiller national du Parti libéral radical. Je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30 et voici Histoire vivante.
Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante.
Cette semaine, justice et écran.
Tous nos témoins sont soumis à une forte tension.
De Nuremberg à plus tard.
Ce tribunal fonctionne selon des règles.
Le droit et l'image.
La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient.
Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale.
Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit.
Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction.
Pas les États-Unis.
Les garanties sont une chose et les réalités une autre.
Les dés sont truqués, les règles sont faussées.
Il y a assez peu de films